بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izzah qui nous accepte ce soir pour, inchallah, essayer de reprendre un peu le programme de la sira, l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les derniers points qu'on avait vus donc, lors du dernier dars de sira concernaient l'intérêt, l'apport de la sira pour le musulman. Qu'est-ce que j'obtiens en étudiant la vie, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et on avait vu que parmi les grandes lignes et les grands apports de la sira, c'est développer le modèle prophétique, devenir une personne exemplaire, parce que l'islam est une religion de pratique, mais c'est également une religion d'exemplarité. On doit être, on doit réincarner, j'allais presque dire, le modèle prophétique dans notre façon de parler, d'agir avec notre famille, notre épouse, nos enfants, nos parents, dans nos relations avec les gens, avec nos collègues, et ainsi de suite. Il arrête, il arrive. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à quel point le prophète alayhi salat wa salam était mouballir, il propageait la religion, mais il était également, enfin, le terme est en anglais, c'était également un leader, un guide. Mais quand on dit un leader, c'est plus percutant. Un leader. Et on parle souvent de le leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mubarak Fawri, hafidhahullah, explique que le management, comme on peut dire, le prophète alayhi salat wa sallam, était certainement le plus accompli de l'ensemble des prophètes. Car il a eu une mission qui était très courte. Combien d'années sa prophétie ? Au total, 23. 13 ans à Mecca et 10 ans à Madina. 23 années, c'est très peu pour un prophète. C'est une prophétie qui est très courte, qui a commencé à l'âge de 40 ans. Et donc, le cheikh explique qu'en 23 années, le prophète alayhi salat wa salam a changé la religion de toute la péninsule arabe. Toute la péninsule arabe, on va dire la majorité des tribus, étaient, Allah musta'an, dans l'idolâtrie, dans le culte des idoles. Et en quelques années, le prophète alayhi salat wa salam va les faire sortir de al-dhulumat ila nur, les sortir de l'obscurité pour les amener vers la lumière, vers l'unicité d'Allah, vers le tawhid. Et Cheikh Mubarak Fawri dit que 23 années de travail, d'efforts, qui portent ses fruits 1400 années plus tard. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, jusqu'à en 2021, 2022 et jusqu'au Qiyama, nous, nos enfants, nos petits-enfants, ils continueront à pratiquer la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à bénéficier de sa prêche, de son management, de sa da'wa, de son akhlaq, de son engagement spirituel qui fait qu'il a changé l'humanité. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Wa ma rasalnaka illa rahmatan lil alamin ». Donne-moi notre version, on retrouve le mot « alamin ». Facile celle-là. Ben oui. « Alhamdulillahi rabbil alamin », ça veut dire quoi? Les mondes, l'univers. Quand on dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan lil alamin. Il était envoyé comme une rahma. Comment traduire rahma? Une bénédiction, une clémence, une rahma qui vient d'Allah, une pitié qui vient d'Allah pour ses créatures, pour qu'ils reviennent vers le droit chemin. Et donc, jusqu'au Qiyama, nous profitons de la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, en termes de, on va garder le terme de management et de leadership, Le prophète alayhi salat wa salam a suivi scrupuleusement les ordres d'Allah dans l'organisation de la société. Si je vous dis que la sunna, c'est de porter la barbe, de prier comme ça et tout, on comprend, c'est des choses qu'on connaît, on met en application, on fait au mieux, on fait au mieux. Mais la mission du prophète sallam n'était pas juste de nous enseigner la façon de manger, de se comporter, de tout ça. Ça faisait partie de sa mission, mais ce n'était pas tout. Le prophète était avant tout également un leader, quelqu'un qui contrôlait les masses. Il avait à sa charge des sahaba et la umma s'agrandissait jour après jour. Je ne sais pas si il y a un chef d'entreprise parmi vous ou parmi ceux qui vont écouter, quand vous avez 5 employés, on peut gérer un autre. Si on a 3 personnes, il fait bon pain, ça ou ça, bon piment. Les gérables, 3, oui ou non? Demain, nous, il devient, mashallah, plus grand, il a 30 personnes. Facile? Là, il commence à avoir des problèmes. Il y en a un qui ne s'entend pas avec l'autre. Il y en a un qui fait trop, il y en a un qui ne fait pas assez, il y en a un qui est en retard. C'est souvent des termes en anglais. La gestion, il y a un terme, j'ai oublié. La gestion humaine, la gestion du personnel, gérer les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, très compliqué. Enfin bref, on va pas donner d'autres exemples. Vous pouvez demander à un proviseur de collège ou de lycée, et il est parfois plus facile de gérer les élèves que de gérer les professeurs. Quand c'est des adultes qui réfléchissent, qui donnent des idées, chacun veut faire les choses à sa façon. Je referme vitement la parenthèse. Le prophète alayhi salat wa salam va gérer des dizaines, des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers. Il y avait combien de personnes lors du pèlerinage d'adieu? À peu près l'équivalent de la ville de Saint-Denis. Non, 120. Voilà. Enfin, je crois que Saint-Denis, c'est ça à peu près, 120, 130. Vous vous rendez compte? Et toutes ces personnes étaient présentes. Enfin, ils n'étaient pas tous présents. Ça, c'était ceux qui ont pu venir au Hajj. Et parfois, c'était dans une tribu, ils envoyaient quelques-uns pour les représenter, pour écouter le discours. La Oumma, elle est devenue immense. C'est toute la péninsule arabe. Est-ce que vous visualisez sur une carte, il n'y a pas une carte, on est dans le masjid bien sûr, la péninsule arabe, c'est grand. Hein, c'est plus que la France, l'Allemagne et tout collé. Hein. Et quand on dit la péninsule arabe, ce n'était pas ce qu'on appelle l'Arabie saoudite. Hein. Il y avait Dubaï, il y avait les Émirats, tout ça, c'était le Yémen, tout ça, c'était un seul bloc. Donc on parle d'un territoire qui est immense. Et le prophète alayhi salat wa salam reçoit l'ordre d'Allah de, on va dire, de gérer cette umma qui était petite puis grandissante de façon différente, différentes étapes, on va dire, dans la façon d'avancer dans la religion. Tout d'abord, il y avait l'étape de la da'wa, ce qu'on appelle, ça on verra inch'Allah en détail hein, par la suite, la da'wa sirriya, la da'wa qui était cachée, discrète. C'était au début de la révélation, où il ne fallait pas annoncer haut et fort que le prophète a reçu Iqra, il est prophète, il va changer la Mecque, il va enlever les idoles. Non, le dire, c'était se condamner. Donc la première étape, Allah lui demande de prêcher et de propager de façon discrète. Le prophète reçoit l'ordre divin. Comment il le reçoit l'ordre divin? Par le Coran, on est d'accord. C'est par le wahy des versets. Le prophète alayhi salat wa salam, il respecte donc scrupuleusement l'ordre d'Allah qui est de prêcher de cette façon. Quelque temps après, Allah azza wa jalla lui demande wa anzir ashiratakal aqrabin. Maintenant, tu vas faire la da'wa avec les gens aux alentours, tes proches. Ensuite, la da'wa devient ouverte. Et c'est là qu'il y a les premières oppressions, difficultés, persécution et ainsi de suite. C'est des points qu'on verra inch'Allah par la suite en détail, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a eu différentes étapes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se distinguait par son obéissance aux ordres d'Allah. Allah lui demande de faire comme ça, il fait comme ça, comme Allah lui a demandé. Un. Et deuxièmement, il ramène les gens avec lui vers ces différentes façons de pratiquer, de prêcher, mais toujours avec sagesse, hikmah, avec hikmah. Et il arrivait à unir les cœurs. Et il avait cette aura, bien sûr, qu'Allah lui avait donnée, mais également cette qualité, l'amour qui se dégageait de son cœur pour l'ensemble de ses compagnons était tel que quand il leur demandait quelque chose, quand il les sollicitait, quand il leur disait d'être patient, ils l'écoutaient à l'unanimité. Car le professeur Salam faisait l'unanimité. Est-ce que de nos jours, on a un dirigeant qui fait l'unanimité? C'est-à-dire que 100% de satisfait. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Même un alim, un mufti, vous pouvez mettre qui vous voulez sur le mimbar, il y aura toujours des gens qui vont dire que oui, mais ce qu'il a dit, ou alors ça aurait pu être dit de cette façon. Ainsi. Bref, ce qui fait de nous des êtres humains. Mais le professeur Salam, lui, faisait l'unanimité. Là, on a cité trois étapes de la sira. Il y a eu l'étape où Allah Azza wa Jal demande au Prophète sallam de donner la permission aux Sahaba de voyager, de quitter Makkah. C'était l'émigration vers l'Abyssinie. Là aussi, il fallait gérer ça. Qui veut partir? Qui le Prophète veut qu'il reste? Et ainsi de suite, gestion des hommes. Et il l'a fait de façon parfaite avec l'aide d'Allah. Il y a eu l'étape ensuite où il y a eu l'émigration, la hijra vers Madina. Là aussi, les consignes données aux Sahaba, comment quitter Makkah, gérer tout ça. C'était une gestion des hommes qui était exemplaire. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça nous permet également de réaliser que dans la vie, nous devons être des adorateurs d'Allah. On se prosterne, on fait dua, on parle de religion, on lit le Coran, on fait dhikr Allah, mais il faut également prendre des décisions dans la vie. Il faut être capable d'être un leader. Il faut être capable de mener des projets. Il faut avancer la tête haute. Il faut prendre son destin en main. Le destin, c'est Allah qui fait. Hein. Je veux dire que le musulman n'est pas passif. Le croyant, c'est pas celui qui reste dans son rêve et dit « Ouais, miskin, ma'indi shay, faqir, je fais pitié, je suis opprimé, mazloum, les gens ils font ça, moi j'ai rien. » Mais non. Il faut lever la tête. Il faut se relever. Et il faut affronter la vie. Et il faut prendre ses responsabilités. Et le Prophète sallam, durant ses 23 années, il a eu peur une seule fois. Alors, celui qui trouve ça, je ne sais pas, j'ai rien avec moi. À Madrasa, j'ai toujours des trucs à donner aux gens. Mais je vous promets, il y a une récompense. Je ne sais pas quoi, mais une seule fois. Et si vous ne trouvez pas, c'est chacun amène. D'accord. Nous sommes nous amène Beaumont, pain pour moi, elle y amène Napolitaine, Barfi. Elle dit ça, vous savez qu'on est fait cuit, madame. Va trouver un affaire, va trouver. Alors, si tout le temps, là, il nous ramène Jalibi. Ouais. Hein? Non. Il a dit à Tabouk. Non. Une seule fois, le prince a eu peur de sa vie.
Ah
oui, il a reçu la révélation. Ah. Mashallah. Voilà, c'est tout gâteau finalé. Adieu Jalibi, bonne fête. Barakallah fik. Oui. Lors de la première révélation, premier wahi. On connaît l'histoire, on a tous appris ça, madrasa. Hein. Il était dans la grotte, il se retirait. On verra ça en détail, inch'Allah, par la suite. Parce qu'il n'en pouvait plus de la pratique des Quraysh. Adoration d'idoles, buvait de l'alcool. Il faisait des trucs qu'on appelle jahiliya, l'ignorance. Il n'en pouvait plus. Ce qui prouve, on ne veut pas ouvrir des parenthèses maintenant, ce n'est pas le but, mais le croyant, là, qui est sur le droit chemin, doit écouter son cœur. Quand ton cœur te dit ce mahol là, cette ambiance n'est pas bonne, écoute-le. Quand tu sens pas une personne, quand tu sens que tu es dans un groupe où il y a trop de péchés, il y a ribat, il y a des choses pas bien, éloigne-toi. Vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord ? Le prophète s'est isolé dans la grotte jusqu'à ce que l'ange Jibril est venu. L'histoire est connue, on le verra inchallah. C'est là qu'il a eu très peur. Parce que c'était un être invisible. C'était dans le domaine du, dans un terme moderne, on parle du paranormal, du fantastique. Mais ce n'était pas fantastique. C'était l'ange Jibril, mais le prophète ne savait pas c'était quoi tout ça. Il est parti voir son épouse Khadija, qui l'a réconforté. Il y a les fameux sourates, il y a Yuhal Muzammil. Jusqu'à ce que Khadija l'amène voir son cousin qui s'appelait Bahira, le moine qui a interprété. L'histoire est connue, on a tous appris, ça a fait revenir, je pense, hein, des souvenirs de ce qu'on a étudié avant. Et là, il a eu très, 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 très peur. Tellement il a eu peur qu'il avait des palpitations, d'un terme médical, on parle de tachycardie, jusqu'à ce que cet endroit-là, je ne sais pas comment ça se dit en terme médical, se mettait à bouger. Tellement il était saisi. Après ça, il n'a plus jamais eu peur jusqu'à sa mort. Même à Badr. Badr, les sahabas avaient peur. Hein. Tout d'un coup, il dit qu'il y a 900 personnes armées jusqu'aux dents. Eux, ils étaient partis pour récupérer leurs biens. Pas armés, forcément. Toute la nuit passe en doua. Toute la nuit. Et au matin, Fajr, il est encore en train de faire doua. Pour la Ummah, pour l'aide d'Allah. Mais peur, non. Uhud, on connaît le drame, si on peut dire, des archers, l'histoire, hein, on verra par la suite. De toute façon, on n'a jamais eu peur. Tabouk, pas eu peur. Quel était l'événement le plus inquiétant de la Sirat? Un des plus. L'équalisé. Al-Ahzab. C'est ça que vous voulez dire tout à l'heure, peut-être, non? Pas Tabouk, hein? Al-Ahzab. Quand tout le monde s'est réuni autour de Madina pour en finir. Jamais il a eu peur. Et son aura, sa personnalité, sa force de persuasion était arrivée au summum. On est à Madina, là si on reste sur la bataille de Ahzab, les Sahaba sont avec lui depuis 13 ans, 14, 15 ans, plus même. Et ils se sont déjà imprégnés du modèle prophétique. Et les Sahaba, eux non plus, non, ils n'ont pas peur. Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab. Il y a Hafez parmi nous ce soir? Non? Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab. Lorsque les croyants ont vu les coalisés, ils ont vu. Qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasul. Ils ont dit que c'est ce que Allah et son prophète nous ont annoncé, nous ont promis. Ils savaient que Allah a décidé que cette situation se passe comme ça. Peur, jamais. Pas eu peur. Et le prophète, bien sûr, c'est le modèle, le qaïd, justement le leader, celui qui donne la pulsion aux troupes et qui les mène vers, qui leur montre le chemin à suivre. C'était tout ça le modèle prophétique. En fait, j'aimerais qu'on revoie un peu, enfin, bien sûr, on connaît tout ça, mais on réalise que l'islam, cette belle religion, qui est la nôtre, alhamdoulilah, Inch'Allah, on reste dans cette religion jusqu'à la mort. On meurt de le dire, on transmet à nos enfants, à nos petits-enfants et à des générations. Cette religion, elle est belle, pas uniquement parce qu'on est dans la masjid. Le mu'min, ce n'est pas celui qui est uniquement dans la masjid, la tête baissée en train de faire doigt, zikr. Ça fait partie de la vie du musulman. Salah, zikrullah, doigt, ça fait partie de l'islam. Mais au-delà de ça, il y a ce croyant qui est présent dans la ville, dans la cité, dans la société, et qui mène des projets, qui est un leader. Un leader, que ce soit spirituel, ou même dans des projets mondains, ce n'est pas un problème. Tu es chef d'entreprise, tu as telle profession, mais dans ta façon de te comporter avec les gens, fais en sorte que tu sois irréprochable. Et que tout le monde est en admiration devant toi, mais pas par ostentation, hein, parce que tu es le modèle prophétique. Tu vis la sunna et tu dégages de la sunna dans ton akhlaq, dans ton honnêteté, dans ton engagement, dans ton humanisme. Est-ce qu'il y a encore de l'humanisme dans les entreprises? Quand on dépasse 10 employés, il n'y a plus. Hein. Ah, ils sont obligés de mettre un DEH, des directeur des ressources humaines, parce que il y en a qui n'en peuvent plus, ils ont besoin de quelqu'un, et en général, le DH est souvent aussi sous la coupe du patron, enfin bref, et c'est juste pour faire un genre. Il n'y a pas d'humanisme dans le monde du travail, dans la société. S'il y avait de l'humanisme, moi en venant Salat al-Isha ici, en sortant de chez moi, ben, comme tous les soirs, je croise Guy Noël. Tout le monde connaît Guy Noël? Tout le monde doit connaître Guy Noël. Tout le monde doit le connaître, Nour, bien sûr. Ça qui ne connaît pas, il habite pas Sanni. C'est un miskin, un sans domicile fixe, qui est au centre-ville. Et tout le monde le connaît. s'il y avait de l'humanisme dans la société, il ne dormirait pas dans la rue. C'est que être humain, on s'arrange, la société s'organise pour qu'il y ait un foyer, pour que... Il arrête les dalliques. Moi, personnellement, dans les lieux saints, j'ai jamais vu de personne qui dort dans la rue. À part les pèlerins qui viennent, qui n'ont pas pris de thèse, c'est autre chose. Hein. Mais ça aussi, il y a plus ça maintenant. Enfin, bref. Dire que dans tes relations avec les gens, il doit y avoir tout ce qu'on a dit, mais également de l'humanisme. Fais en sorte que tu représentes ce modèle, tu es l'héritier du Prophète Salam et que ce soit un motif de Hidayah. Voilà une des leçons que nous allons, inchallah, découvrir au fur et à mesure dans l'étude des événements de la Sira. Hada. Et dernier point que Cheikh cite, il y a eu l'étape également où il fallait faire des concessions. Est-ce que c'est facile de faire des concessions? Le plus dur, vous savez, c'est quand? C'est dans un couple. Où il faut accepter, il faut se faire tout petit parfois, il faut faire preuve d'humilité, reconnaître ses torts, même si on n'avait pas tort, mais on passe dessus. Pourquoi? Pour pérenniser la vie familiale, pour maintenir l'équilibre de la famille. Et nos anciens, ce sont nos modèles. Ceux qui ont, mashallah, Ali Sab, combien d'années de mariage? Si ce n'est pas irrespectueux de demander.
Oh,
55. 55? Allahu Akbar.
55.
Subhanallah, barakallah fik. C'est les piliers. Et la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des départs difficiles, des moments compliqués, mais faire concession, faire sabar et faire avancer. De nos jours, dans les nouveaux, parmi les jeunes, je ne focalise pas sur les jeunes, hein. Moins de petits problèmes, tout de suite, hein, ouais, ben, c'est comme ça, ben, ouais, fais ton chemin, je fais mon chemin, et ben, ouais, bien sûr. Et les parents n'aident pas. Hein. Les parents, malheureusement, ils n'aident pas. Surtout du côté de la fille, s'il y a un problème, la maman, le papa, il ouvre le parachute. Viens, Betty. Viens. Viens à la case, maman. Ma yassir. Tu es en train de casser quelque chose d'important, là. C'est plus l'âge de donner de l'amour. Ça ne s'appelle pas donner de l'amour, ça. Ça, c'est enlever l'esprit de responsabilité de ta fille, de son ménage, ou du garçon, hein, parce que les mamans protectrices pour les garçons aussi, ça y est. Bref. Allez, on ferme cette parenthèse. Faire concession, c'est quelque chose de difficile. Le prophète va demander aux sahaba, là on parle de Hudaybiya, d'accepter des clauses injustes. Injustes. Vous vous rendez compte? Imaginez, hein, puis on s'arrête. Imaginez, vous avez fini Yad al-Umra. Tout le monde a envie de faire Umra là, non? Depuis 2 ans, c'est fermé. Vous avez votre visa. Vous avez acheté votre billet. Vous avez acheté votre ihram, votre ceinture. Tout est prêt. Vous avez déjà mis sur vous. Vous êtes en avion, Réunion Maurice, Maurice Jeddah. Dans l'avion, vous avez mis votre ihram. Vous atterrissez à Jeddah. Vous prenez le bus ou le taxi, peu importe. Et vous arrivez à la limite de Mecca. Vous savez la limite de Mecca où il y a un Coran, une grande sculpture, hein. D'accord, bon, ça se voit pas quand on passe dessous, mais de haut, ça se voit. C'est la limite de Haram. Vous arrivez là, il y a un checkpoint, il dit non, on peut pas vous laisser entrer. Pourquoi? Je suis en règle, le visa. Non, mais pas possible, désolé. Et pourquoi? Il dit, c'est comme ça. Revenez l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe de ton cœur? Tu en es Haram et tout, hein? Tu es en train de lire Talbiya, la Beik et tout depuis chez toi. Tu meurs d'envie. Pour certains parmi nous, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils n'ont pas vu la Kaaba, ou peut-être plus. Mais les Sahaba, ça faisait combien de temps? Depuis qu'ils ont quitté Madina. Et c'était des gens qui habitaient Mecca, donc ils avaient cet attachement encore plus fort que nous. Et en plus de ne pas entrer, il vous dit, il faut faire telle concession. S'il y a quelqu'un qui vient parmi les musulmans, il s'installe à Mecca, on l'accepte. Si quelqu'un de Mecca se convertit à l'islam, il veut venir chez vous à Madina, vous ne devez pas l'accepter. Des clauses qui sont contradictoires, injustes. Allah demande au prophète de tout accepter. parce qu'il y aura un grand khayr. Selon certains mufassirin, le verset de sourate Inna fadahna laka fadhan mubina, c'est pas le sourate de Hudaybiyah. D'autres disent c'est la conquête de Mecca. Le prophète va dire aux sahaba, voilà les clauses. Le sahaba dit au prophète, c'est injuste, on accepte tout. Parce qu'il y a 10 années de paix qui nous sont proposées, qui nous est proposée. Et sahaba, vous avez amené les animaux pour couper les animaux, enlevez votre état d'ihram, rasez-vous la tête, on rentre à Médina. On vous dit, rasez la tête, enlevez l'ihram devant limite de Masjid Haram. Et prenez le bus, rentrez à La Réunion, rentrez à l'aéroport et tout. Si vous arrivez, il y a quelque chose. Le Prophète a pu convaincre les Sahaba de le faire. Leadership. Les Sahaba étaient très en colère, très tristes au début, mais le Prophète leur a expliqué le khair qu'il y a dedans, de la promesse d'Allah. Et c'était ça, An-Nabi Sassan. Un homme qui était capable de montrer comment prier, comment jeûner, comment faire le Hajj, mais qui était capable également de prendre en main la Umma et les mener vers le droit chemin, même s'il fallait faire un travail sur les cœurs. Et nous, en tant que croyants, je répète et je conclue, c'est également une qualité que nous devons avoir dans notre vie, être capable d'être des leaders, mais qui. Mais c'est pas des leaders, c'est pas dictateurs. Hein. C'est des gens qui arrivent à unir les cœurs dans le droit chemin. Qu'Allah nous accepte. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العزة جزاكم الله خيرا